Salut, c'est pas la première fois que je vous raconte une longue histoire.
L'image des Rothschild.
La banque Rothschild, les constructions Rothschild.
Le Rothschild, l'argent quoi.
Les chevaux de course, c'est vrai.
Les vins.
Le baron Rothschild, le nickel, la manganèse, le cuivre.
C'est bien. Quelquefois, ils font des jolis parcs comme ici, avec leurs dollars. D'autres fois, ils font des bêtises.
Ça veut dire une famille allemande, française, anglaise.
Il y avait beaucoup de biens pour Israël et tout ça.
Les Français sont habitués depuis deux siècles à désigner la richesse par le nom de Rothschild. Et si l'étoile de la famille pâlit, ils s'attendent à ce qu'elle reparaisse. Dernier rebondissement, l'établissement nationalisé en 1981 est maintenant non seulement reconstitué, mais renforcé, présent dans 80 pays. Les Rothschild, c'est d'abord un réseau fluide et des antennes frémissantes. Quand ils entrent chez eux, Emmanuel Macron dit « Ils étaient les seuls à pouvoir comprendre mon parcours si peu intelligible pour les autres ». Les Rothschild ne demandaient pas la suite d'une carrière qui serait politique pour leur bref associé gérant. Georges Pompidou, certes, fut le numéro 2 du baron Guy, mais une fois passé à Matignon en 1962, l'un et l'autre prirent grand soin d'éviter les soupçons de connivence. Il semble qu'en 1993, François Hollande, après une défaite en Corrèze, approcha Edmond, qui lui fit dire « Je vous accueillerai volontiers, mais renoncez aux élections ». J'ai déjà eu Henri Emmanuelli comme vice-directeur. Je ne suis pas une école de formation permanente pour les politiques. Il n'empêche, la machine à fantasmes fonctionne toujours. Si par exemple Emmanuel Macron était passé par HSBC, un établissement dont on ne sache pas que son rôle ait toujours été très philanthropique, il n'est pas sûr qu'on l'appellerait encore « Monsieur le banquier ». Avec une emphase lourde de sous-entendus.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Eh bien, ce n'est pas de ce pain-là que va manger Pierre Birnbaum. Bonjour Pierre Birnbaum.
Bonjour.
Oui, on ne va pas parler de ce que la demande sociale attend et essayer de situer autrement la famille Rothschild. Alors, s'il faut que je vous présente Pierre Birnbaum, je dirais que vous avez consacré nombre de livres aux élites françaises et puis aussi au monde juif en France et à ce qu'on appelait les juifs de cour, qui sont différents des juifs d'État. Les Rothschild, si on remonte à l'origine, il y a deux siècles, et même à la fin du XVIIIe siècle, ce sont des juifs de cour.
Évidemment, c'est le modèle même du juif de cour en France, mais de suite, il faut ajouter que les juifs de cour sont peu nombreux en France. Ils sont légion en Allemagne, en Prusse, en Russie. En France, les Rothschild sont une monnaie rare. Et il faut dire tout de suite que celui qui crée la dynastie, Meir Henschel, à la fin du XVIIIe siècle, a commencé à travailler chez celui qui représente le plus le modèle du juif de cour, qui est Oppenheim, la figure même du juif de cour. Alors, il est né à Francfort, Meir Henschel, et il vit dans sa petite boutique au cœur du ghetto. Il devient très proche du prince de Hesse, Guillaume IX. Il va devenir le fournisseur de la cour, des armées. Il va instaurer une sorte de rôle important dans la circulation des monnaies, dans l'échange des marchandises. C'est une société fracturée. Et donc, qui dit société fracturée, dit besoin d'échange, de communication. Il va avoir l'astuce de trouver des manières d'échanger les marchandises, de faire circuler l'argent, les emprunts. Et peu à peu, au fond, cet homme qui est très pauvre va fonder une véritable dynastie.
Et cette dynastie, on va la retrouver au carrefour de 1800, en Hesse, Francfort, agent de la cour de Vienne, et puis comme il faut des interfaces avec l'Empire français de Napoléon à Paris, sans oublier évidemment Londres. Et l'homme qui va représenter les Rothschild pendant 65 ans à Paris, c'est le baron James, à qui la restauration va être extrêmement favorable. Il va en devenir un grand personnage, et c'est un personnage de roman aussi, le baron de Nucingen. Il a été inspiré en partie par James de Rothschild à Honoré de Balzac. Ici un extrait de Splendeur et misère des courtisanes.
Il me semble, baron, que vous avez considérablement maigri.
Oui, c'est vrai, mais mon docteur ne sait pas me dire ce que je peux avoir. N'est-ce pas, monsieur Bianchon?
Vous travaillez trop, je vous le dis.
Mais non, je n'ai plus le goût d'aller à la bourse. Titier, puis qui est banquier comme moi, en profite pour faire de bonnes affaires. Hein, Titier, pendant que je ne suis pas là. Hein?
Pas du tout. Tout le monde est persuadé que votre absence est une feinte et que vous nous préparez à tout. Alors toutes les transactions sont suspendues. On vous guette.
Mais regardez-moi, je vous assure, je suis malade.
D'amour, je ne suis pas aussi savant que vous, mon cher Bianchon. Mais les passions causent au corps les désordres des maladies, n'est-ce pas? Notre cher baron est tout maigri, tout délabré. Et donc il est amoureux.
C'est vrai. J'aime.
Comment James peut-il dire « j'aime » D'abord, Pierre Binbaum, il parle épouvantablement le français. Et puis, comme on dit Michelet, il a un profil de singe intelligent.
C'est une remarque sympathique. D'autres pourraient, dans votre sens, sont infiniment moins agressifs. Vous savez que Stendhal voit dans le père de Lucien Leven un banquier dont le modèle aurait été James également, et la description qu'il en fait est beaucoup plus avenante. Ce qu'il faut dire tout de même, c'est que le père, Hamschel, Meyer Hamschel, a 4 filles et 5 fils. Et donc, c'est ça qui crée la spécificité des Rothschild. Il les envoie dans chacune des capitales, à Londres, à Vienne, à Naples, un peu partout. Et l'un d'entre eux reste même à Francfort. Il va s'instaurer une sorte de réseau dont vous avez parlé il y a un instant, dont James, évidemment, en France, va être la figure de proue. James change de nom, puisqu'en réalité, il s'appelle Jacob. Le fils de son nom de naissance, c'est Jacob. Lorsqu'il vient à Paris, il s'appelle maintenant James. Et ses noms et ses prénoms vont être transférés d'une génération à l'autre, selon la tradition juive. On trouve des dizaines de James, on trouve des dizaines de Meyer, de Hamschel. D'une génération à l'autre, on a un même monde qui se répète, qui marque sa solidarité par à la fois l'endogamie, la transmission des noms, l'endogamie d'une famille à l'autre entre les cousins. Alors James s'installe à Paris et il va faire fortune. Il va faire fortune depuis la Restauration jusqu'à Napoléon III. Et au fond, vous savez bien que Napoléon III va visiter, la fameuse visite du château de Verrières par Napoléon III marque la proximité qu'il a su maintenir avec les rois, les Bourbons ou les empereurs.
Alors Ferrières, c'est le château qu'il fait construire par un architecte anglais à partir de
Paxton,
la moitié du 19e siècle, et qui est éclatant. On reviendra sur les caractéristiques du style Rothschild. Enfin, s'il n'y avait pas eu James, question provocante, Pierre Binbaum, les premiers socialistes français n'auraient pas eu l'occasion d'être antisémites, comme l'ont été un certain nombre d'entre eux.
L'antisémitisme va être féroce à l'encontre de James, qui va être sans cesse dénoncé aussi bien par Fourier que par Proudhon, aussi bien par Leroux que par Toussenel. Toussenel est d'une violence, d'une agressivité à l'égard des Juifs dans l'économie, et va créer une tradition qui va déboucher malheureusement un peu plus tard sur la France juive en 1884. Il faut ne pas oublier que Drummond vient lui aussi du socialisme, même s'il est passé à l'extrême droite. Donc il y a une tradition qui s'instaure au cœur même du mouvement d'extrême gauche socialisant, qui met une sorte d'équation entre le roi Rothschild, le roi des Juifs, et donc le capitalisme apatride.
Mais chaque fois que la famille Rothschild montre sa solidarité avec la patrie, à l'occasion de chaque guerre par exemple, on lui répond « Oui, mais pourquoi prenez-vous à ce point la défense des Juifs persécutés ?» Ça, c'est une constante qui apparaît dès l'époque de James.
Ils apportent leur aide à l'égard des Juifs persécutés par la Russie et par l'Allemagne jusqu'à l'époque contemporaine, mais il faudrait dire tout de suite qu'ils apportent essentiellement une aide financière à la France. Ils donnent sans cesse des contributions financières gigantesque, aussi bien pendant la guerre de 70 que pendant la guerre de 14-18 et la dernière guerre. Et ils vont mourir eux-mêmes ou se battre dans les armées françaises, aussi bien à travers en tout cas les deux dernières guerres. Vous avez des exemples de Rothschild qui se battent sur le terrain et qui sont blessés, qui mènent des actions courageuses. Donc il y a à la fois le souci des autres juifs, mais également le souci d'être français et de donner à la patrie une grande partie du capital.
Nous sommes maintenant sous la Troisième République. James est mort en 1868. Son successeur, Alphonse, va se retrouver face à une réaction antisémite particulièrement violente. C'est là qu'il faut raconter l'histoire du krach de l'Union Générale. C'est une banque catholique qui était chargée de donner au Saint-Siège et aux intérêts religieux en France des bases financières suffisantes. Cette banque fait faillite et on va accuser les Rothschild d'être responsables de cette faillite. On trouve un écho de cette histoire dans L'Argent, le livre de Zola, ici adapté par Jacques Rouffio.
Je suis Gundermann. La banque Gundermann. Vienne, Paris, Londres, Berlin, Francfort. Je n'aime pas Monsieur Saccard. Monsieur Saccard n'est pas un banquier sérieux. Il est bon qu'on le ruine pour lui apprendre le sérieux.
Monsieur Saccard.
Oui.
Pardonnez-moi. Mais il ne faut plus donner des pourboires de roi aux cochers de fiacre, comme tout à l'heure.
Vous n'aimez pas les cochers de fiacre?
Vous m'aviez demandé de regarder vos comptes, et vous m'aviez demandé d'être franche.
Ah. Venez. On parlera de ça chez moi. Les derniers meubles mettent aux enchères, si je comprends.
Renoncez pas à vos domestiques et à tout ce qui n'est point strictement nécessaire. Il ne faudra même pas un an, monsieur, que vous soyez dans la vraie pauvreté. Celle qui ne vous lâche plus.
La faute aux Rothschild. Deux ans après le krach de l'Union Générale, en 1886, paraît la France juive d'Edouard Druman, que vous avez déjà cité, Pierre Birnbaum. Le nom des Rothschild, c'est le nom le plus prononcé dans le livre de Druman.
C'est vraiment la bête noire de Drummond. On ne peut pas imaginer la violence, les injures qu'il déverse sur les Rothschild. Mais Drummond est un homme tout à fait étonnant. Vous savez qu'il a été à Ferrières lui-même. Il a été regardé comment était Ferrières, à quoi ça ressemblait, pour pouvoir mieux en parler, pour pouvoir mieux dénoncer les Rothschild. Il les qualifie à travers, disons, tout un vocabulaire qui va fonder l'antisémitisme contemporain. La race, le nez, les yeux, le physique, le teint, la violence, l'avarice.
Vous avez oublié l'odeur.
Le caractère animalier. Comment ?
Vous avez oublié l'odeur.
L'odeur, bien évidemment. Et cette violence, on la retrouve dans la libre parole tous les jours. On la retrouve malheureusement dans la croix à peu près tous les jours. Et elle se manifeste, au fond, elle a une influence considérable. Si vous me permettez, je voudrais citer un texte d'Edmond de Goncourt dans son journal. Edmond de Goncourt écrit ceci. « À nous, qui depuis 20 ans crions tout haut que si la famille Rothschild n'est pas habillée en jaune, comme au temps du ghetto, nous serons très prochainement, nous chrétiens, domestiqués, ilotisés, réduits en servitude. Le livre de Drummond m'a causé une certaine épouvante par la statistique et le démembrement de leurs forces occultes. » Alors, évidemment, cette statistique, elle est fausse. C'est-à-dire que Drummond imagine que tout le monde est juif et il voit absolument partout des juifs qui n'en sont pas du tout, qui n'en peuvent rien. Mais néanmoins, ce livre, ce brûlot, va être le livre pratiquement le plus lu, le plus diffusé de cette époque et va susciter ce que j'ai pu appeler un moment antisémite d'une violence telle qu'on peut imaginer que par beaucoup d'aspects, la France contribue énormément à la naissance, enfin, une certaine partie de la société française contribue énormément à ce moment-là.
Et pourtant, Pierre Birnbaum, les Rothschild donnent beaucoup de leur sang, avez-vous expliqué, et donnent beaucoup à la terre. Alors ça, c'est peut-être surprenant pour nos auditeurs. Les Rothschild se passionnent pour l'agriculture.
C'est une des dimensions qui m'a le plus intéressé. Au fond, peut-être parce que précisément, ils ne souhaitent pas apparaître comme des hommes d'argent. Ils contribuent énormément à l'amélioration de l'agriculture intensive. Et dans leur domaine de ferrière, de même que dans d'autres domaines, ils vont instaurer des fermes modèles, des laiteries, des écuries, des vacheries, des bergeries, sélectionner les plantes, construire d'immenses jardins. Il y a des cygnes, des canards, des parterres à la française, des jardins. Il va y avoir tout un système de maîtrise de l'eau extrêmement original qui rappelle d'une certaine manière ce sur quoi je viens de travailler, c'est-à-dire l'idée que au XVIIIe siècle, les Juifs doivent retourner à la terre, les Juifs pour entrer dans la société, comme le montraient les participants au concours de Metz de 1788,
l'Académie de Metz
sur lequel je viens de travailler, les Juifs pour entrer dans la citoyenneté doivent absolument dessécher les marais, retourner la terre, défricher la terre et s'abîmer les mains, redevenir paysans. La terre ne ment pas, dit-on.
En l'honneur des Rothschild, voici de Darius Milhaud, chanté par Florence Cast, La fouilleuse draineuse. Et le choix de Darius Milhaud n'est pas innocent, parce qu'on entendra ensuite un propos de Philippe de Rothschild, le fameux baron Philippe, mouton Rothschild, mouton cadet, qui a vu un de ses poèmes adapté par le même Darius Milhaud.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Le mot clé de tout ça, pour moi, c'était la liberté. Ce mot dont on se sert pour tous les problèmes, ce jour-là, pour moi, il était la vérité personnelle. Ma vérité, c'est que j'étais accablé, du côté un peu trop solennel de la vie de ma famille. C'était une vie de bourgeois très fortuné et qui avait abondamment de domestiques où tout était réglé, Tandis que là, maintenant, j'étais libre, je pouvais m'habiller comme je voulais, je pouvais rigoler comme je voulais, je pouvais éventuellement même me saouler. Mais bien que ça se fasse à travers plusieurs années, 2, 3 ou 4 ans, je vais pour ce qui est de la vigne extrêmement vite et pour mon âge. Je veux que le vin qui parte et qui se promène dans le monde se promène et soit un peu une image de moi.
Avez-vous conscience d'avoir travaillé, modelé un personnage ?
Je crois aussi honnêtement que je puisse être avec moi-même, je ne le crois pas. Je suis quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui s'amuse. Donc, un des principaux amusements et plaisirs, c'est le travail, à condition que le travail soit interrompu par le vrai plaisir. Et le vrai plaisir, c'est la vie avec les femmes.
Le baron Philippe, plus il se multiplie, plus il naît chez les Rothschild des figures singulières et épatantes, comme on disait, de liberté. Le baron Philippe est un modèle, avec son goût d'ailleurs pour les arts, pour la peinture, pour le théâtre. Sa fille, c'est Philippine de Rothschild, Philippine Pascal.
Alors, les Rothschild sont très intéressés par tout ce qui est du domaine de l'art. Ils sont abonnés à l'opéra, ils suivent les concerts. Chopin a donné des cours à leurs enfants, Rossini aussi. Ils sont très liés à la musique. Ils ont un goût néanmoins assez classique. Et au fond, la manière dont ils construisent leur château relève plutôt du goût classique, de la Renaissance, du style de Louis XIV, de la mise en scène de matériaux d'une époque déjà un peu éloignée.
Alors on appelle ça, Pauline Prévost-Marcilassi appelle ça l'historicisme.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on rassemble toutes les facettes de l'histoire de France, de l'histoire d'Europe.
Exactement, dans leurs différents hôtels ou dans leurs différents châteaux. Et on peut même confondre les châteaux et les hôtels. Les hôtels sont conçus comme des châteaux et les châteaux comme des hôtels. Il y a là un goût extrêmement qui se rapporte à des périodes lointaines, mais qui néanmoins utilise le modernisme. dans la structure elle-même du fonctionnement de ces hôtels ou ces châteaux. On va à Versailles, par exemple, pour copier le style. On s'intéresse à un type de décoration qui est de type italianisant. On met en scène, au fond, des collections à travers des galeries, comme on le faisait au XVIIe siècle. On a une sorte de style très, non pas pompeux, mais qui n'a rien, disons, de moderniste.
C'est l'histoire narrée de la famille qui est ainsi exposée aux visiteurs. Vous n'avez pas parlé des commandes. Les Rothschild étaient collectionneurs. Il leur est arrivé de commander aussi. Mais moi, je voulais jeter dans l'arène une autre commande. Nous sommes maintenant au moment des années 30. Daladier, le radical, a dit que tous les maux venaient des 200 familles. Le Parti communiste a enchaîné. Et voici une commande du Parti communiste en 1936 à Jean Renoir. La vie est à nous.
La France est sans rival pour la haute mode. Les lingeries fines, les fleurs artificielles, la dentelle. La France est réputée pour ses industries de luxe. Les articles de Paris ont une renommée mondiale. Les robes, les chapeaux, les manteaux, les fourrures que vous pouvez voir à Longchamp, au Bois de Boulogne, aux Champs-Élysées. Je pense que c'est quelque chose d'unique, d'incomparable. Évidemment, vous n'avez pas eu beaucoup l'occasion de vous en apercevoir.
Allez, nous Piola, un petit peu d'air, s'il vous plaît. Hein?
Oui, mon vieux, la France est un pays très riche. Très riche?
Bah, pourtant, à la maison, maman a dit souvent qu'on est pauvre. Comment que ça se fait?
Bah, c'est parce que ton père, il a pas de travail.
Mais non, quand il travaille, on était pauvre quand même.
J'ai jamais eu beaucoup de sous, nous, à la maison.
Chez nous non plus.
Bah alors, les 4 milliards de volailles et de plumes.
Ah, tu sais tout ça? C'est aux riches.
La France n'est pas aux Français, car elle est à 200 familles.
La France n'est pas aux Français, car elle est à ceux qui la pillent.
Alors, 200 familles, bon, l'idée qu'il y a des permanences, que des dynasties sont là, enracinées. Mais il y a le voisinage, Pierre Birnbaum, avec l'autre thème connexe. La France n'est pas aux Français.
Alors c'est le fameux slogan de Drummond, la France aux Français, qui orne la libre parole tous les jours.
Mais attendez, là je vous parle du Parti communiste.
Oui, ben précisément, il y a une sorte de fusion ici des métaphores et des slogans qui fait peur. Au fond, on a une même interprétation de la nature de la société française qui serait comme pervertie par ceux qui n'appartiennent pas au peuple français. Quand on dit la France aux Français, ça veut dire que ceux qui n'en sont pas, un certain nombre d'entre eux n'en sont pas. Alors pour l'extrême droite comme pour l'extrême gauche, malheureusement de ce point de vue, il y a une sorte d'identité, de similitude, et on la retrouve de manière éclatante dans les années 30 avec les métaphores aussi du mur d'argent. Le mur d'argent ou les 200 familles, c'est la même interprétation des riches qui ne sont pas français, qui ne doivent donc pas appartenir au peuple français. C'est au fond la vieille reprise des métaphores de l'abbé Sieyès. Les aristocrates ne sont pas français, ils ne doivent pas faire partie du peuple français. Il y a une sorte d'exclusion des riches, des aristocrates, des juifs, qui se transmet à travers toute une histoire et qui exclut un grand nombre des Français de leur appartenance.
On fera, si vous le voulez bien, une ellipse sur la période de la guerre et de l'occupation. Les Rothschild en parlent très peu, disant qu'ils n'ont pas été les plus malheureux. La femme de Philippe, Lilith Chambure, est morte à Ravensbrück. Et on en vient maintenant à l'époque qui n'est pas sans rappeler peut-être celle d'aujourd'hui, de Georges Pompidou. Georges Pompidou était le numéro 2, ce n'était pas un éphémère associé gérant, de Guy de Rothschild, qui parle ainsi de son ancien second. C'est assez curieux la manière dont il considère les choses avec Jacques Chancel.
S'il était resté avec moi, si nous étions continué l'équipe que nous formions, qui discutions tous les jours philosophie ou philosophie d'affaires, est-ce que son influence ce qui aurait émergé du couple aurait été différent? C'est une question que je me pose, mais vraiment, c'est indépendant de sa carrière.
J'aime bien cette phrase-là qu'il définit bien, un œil de curé, un œil de canaille.
Alors la phrase, qui est très spirituelle, est de ma belle-mère, la mère de Marie-Hélène.
La mère de Marie-Hélène
Dorothée. Extrêmement spirituelle, et qui lui a dit à lui, mon petit, tu as un œil de curé, un œil de canaille.
Tout à fait le ton Rothschild, extrêmement spirituel, cette phrase de Madame Van Zuylen. Ils ont essayé de n'éveiller aucun soupçon après que Georges Pompidou est devenu Premier ministre, même si Georges Pompidou a soutenu la société le Nickel, qui était en difficulté en Nouvelle-Calédonie.
Leurs relations se sont très vite détériorées, et on peut remarquer d'ailleurs que Georges Pompidou a eu des mots extrêmement cruels à l'égard d'Israël, ou même des juifs américains, et donc s'est éloigné par beaucoup d'aspects des Rothschild. Mais revenons surtout à la perception du moment Pompidou, et qui évoque... de manière très différente, la perception du moment Macron. Les choses sont infiniment plus violentes au temps de Pompidou qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et là encore, exactement comme dans les années 30, on voit une similitude effrayante entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Prenons Minute, Rothschild, Pompidou égale Rothschild, c'est le symbole de l'argent apatride. Prenons toujours l'extrême droite, Lecture française, le gouvernement de Rothschild. Prenons maintenant, si vous voulez, l'humanité. Dassault ou la nation, Rothschild ou le peuple, les barons de l'acier ou les Français. Ça évoque des souvenirs d'aujourd'hui encore, mais les choses ne sont pas dites de cette manière-là. L'anticapitalisme de l'extrême droite répond à l'anticapitalisme de l'extrême gauche. Et le mur d'argent, les 200 familles reviennent à travers précisément cette métaphore des Rothschild. Et le fait que Pompidou soit passé par les Rothschild, un peu comme de nos jours, facilite la résurgence de ce mythe qui n'est qu'un mythe. Pompidou a travaillé pour les Rothschild, de même que Macron a travaillé pour les Rothschild, mais l'un et l'autre ont été fonctionnaires, agrégés de philosophie ou normaliens ou énarques, et ni l'un ni l'autre, leur personnalité n'est pas façonnée par un moment de leur carrière.
Alors cette différence sur laquelle vous insistez est une marque parmi d'autres d'une transformation de la société française.
Il me semble que de ce point de vue, c'est incontestable. De nos jours, on entend peu de choses, rien, aucun des bruits, aucune des métaphores, aucune des injures des années 30 ou des années Pompidou.
Vous êtes sûr de bien regarder tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ?
Pardonnez-moi, je ne regarde pas les réseaux sociaux, mais en regardant un peu la presse et tout de même ce qui se diffuse, j'ai trouvé certaines choses de Soral, par exemple, mais très peu d'attaques venimeuses, comme elles étaient en tout cas explicites, publiques, dans la grande presse et pas seulement dans les réseaux, dans les grands journaux nationaux. Vous avez des injures déversées tous les jours en termes antisémites, qui, je pense, de nos jours n'ont plus cours. Il y a une réserve, une prudence en tout cas, de ce point de vue de nos jours.
Alors, vous n'avez pas encore écrit sur les Rothschild, mais beaucoup travaillé pour préparer cette émission. Mais si vous avez une lecture à recommander, une lecture signée Pierre Birnbaum, un livre de vous.
Écoutez, je citerai Le Peuple et les Gros, de ce point de vue, où tout est dit, ou presque, du point de vue des interprétations métaphoriques de la société française, qui donne précisément aux Juifs un rôle privilégié dans cette vision démoniaque des gros qui domineraient le bon peuple de France.
Merci à vous. Cette émission a été préparée par Franck Olivard et Elinka Negulesco, avec à la technique Henri Bérec, à la réalisation Valérie Estaraille.